vous souhaite à tous une bonne et heureuse année avec Jésus-Christ. Et je crois que ce chant, c'est vraiment une prière de consécration, rejoint un peu ce que j'aimerais nous souhaiter, partager avec vous ce matin. Je sais que le monde nous annonce et nous offre, propose en ce début d'année, nous encourage à nous souhaiter bonheur, santé, prospérité. J'aimerais nous offrir bonheur, santé, prospérité, mais biblique, christocentrique, centré sur Christ. Bonheur, oui, mais je te souhaite que l'Éternel soit ton berger. Alors tu pourras dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, je te souhaite la santé, la prospérité, mais comme dit la parole de Dieu, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Bien évidemment, je ne te souhaite pas la maladie, la pauvreté. Je souhaite la prospérité de notre âme. Alors que tout le monde peut te souhaiter une bonne année, j'aimerais nous offrir, nous encourager à ce que Dieu seul peut nous offrir une année de grâce. Une année de grâce. Une bonne année dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors avec une nouvelle année vient son lot aussi d'anticipation. Et j'aimerais peut-être déclarer pour nous, pour 2025, que 2025 soit pour toi, soit pour nous, une année de repos. En discutant avec plusieurs, on a dit oh, on a besoin de repos. Peut-être qu'on aimerait se déclarer une année de victoire, une année de miraculeux, une année de bénédiction, une année de succès, une année de gloire. Dieu voulant. Dieu voulant. C'est un peu le titre que j'aimerais donner à ce message ce matin et qui souligne le passage qu'on va voir. Dans les mains de Dieu, nos projets pour 2025. Dans les mains de Dieu. Je vous invite à ouvrir avec moi un passage très connu. Vous avez peut-être déjà entendu qu'on peut-être on l'utilise régulièrement, peut-être en début d'année. Mais dans l'épître de Jacques, au chapitre 4. Je vous invite vraiment à avoir la parole de Dieu sous les yeux. Jacques 4, c'est une parole de Dieu, je crois pour nous, une parole de sagesse qui, par la grâce de Dieu, peut transformer nos vies et façonner aussi cette année qui s'ouvre devant nous. Alors voici ce que dit la parole de Dieu. Jacques 4, versets 13 à 17, et je lis dans la traduction La Colombe. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Voici la parole de Dieu. J'aimerais simplement prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole qui, c'est vrai, a été rassemblée il y a déjà bien des siècles, elle nous rejoint tellement dans nos quotidiens. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre nous ce matin, en ce début d'année, pour que nous puissions voir tes priorités, pour que nous puissions te voir, toi, comme on l'a exprimé par le chant, te contempler, vivre pour toi, te servir, une armée à ton honneur, pour ta gloire. Et pour cela, on a besoin de toi. Alors je prie que cette exhortation de Jacques puisse nous interpeller, nous encourager, nous aider à te mettre au centre de nos vies. Amen. Alors ce qu'on voit dans ce verset 13, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Ce verset nous amène à nous poser la question, et je vous pose la question, quels sont tes projets pour 2025? alors qu'on est au début d'une année, cette parole de Jacques est pour nous. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, peut-être, pour cette année, vous avez déjà fait, vous y travaillez en tout cas, à des prévisions pour cette année, à des projets. Vous avez des projections, des planifications en tête. On prend peut-être des résolutions. Quels sont tes projets ? Souvent d'ailleurs, on réalise qu'à la fin d'une année, nos projets ne sont pas passés comme on l'avait prévu, comme on l'avait anticipé. Nos résolutions du début d'année ne vont pas durer très longtemps. Par exemple, 2023, je prends la résolution d'avoir un moment de qualité, parce que je vois que c'est nécessaire pour mon couple, d'un temps de qualité une fois par semaine avec mon épouse. Un temps à part. 2023. 2024, je réalise, ah, ça a été difficile. Allez, on va mettre un peu les ambitions un peu. Une fois par mois. C'est déjà. Et 2025, vous vous dites, bon, on va essayer d'avoir des conversations sans passer par des conflits, une fois par jour. Mais peut-être qu'en 2023, vous vous dites, bon, moi, je vais me mettre au sport, là, trois fois par semaine, salle de gym, allez, je me motive, un abonnement. 2024, trois fois, c'est peut-être beaucoup, une fois. Peut-être en 2025, tu te dis, bon, j'arrête de prendre l'abonnement, c'est trop d'argent. Peut-être que vous êtes dit en 2023, j'aimerais prier plus le matin, le soir, à midi. 2024, 15 minutes, ça va suffire par jour, on va essayer. Puis en 2025, vous dites, bon, si je prie déjà avant de manger. 2023, résolution, on veut lire la Bible. On sent que c'est important, une fois par an, on va la lire en entier. Bon, on va se contenter du Nouveau Testament en 2024, en 2025. Allez, une fois par semaine ou de temps en temps un petit verset. Quels sont nos projets pour 2025 ? Quels sont nos projets d'église ? C'est vrai, cette année, on nous a encouragés hein, avec ce mot d'ordre. Écoutons-le ! On veut le suivre ensemble, alors on veut l'écouter. Dieu peut tout, alors on veut l'écouter. Il nous écoute, alors écoutons-le. Est-ce que ça a été véritablement depuis septembre hein, quelque chose qui était gravé dans nos têtes, dans nos résolutions, dans notre manière de vivre l'Église, de l'écouter. Début 2024, je vous avais partagé trois résolutions d'être une Église qui vit sa foi publiquement, d'être des disciples, d'être des personnes investies les uns envers les autres, d'être une Église qui est transformée par l'adoration, ça veut dire d'être une Église transformée par le désir d'être conforme à Dieu, de le voir et de voir cette distance entre nous. Je trouve que, bon, en écoutant les témoignages de la semaine dernière, on retrouve un certain nombre de ces éléments pour ceux qui ont pu être là. Ah oui, il y a des choses qui ont été vécues. Revenons à Jacques. La parole de Dieu nous dit, de ceux qui ont des projets, qui planifient, hein, aujourd'hui ou demain, on se projette sur un lieu, voilà, on ira dans telle ville, on y passera telle année, on prévoit du temps, on prévoit des actions, on anticipe un résultat. Alors pour plusieurs, hein, c'est vrai, on a déjà, ou en tout cas on essaye de planifier un certain nombre pour 2025. Peut-être cet après-midi, tu t'es dit, bon, dernier temps avant de mettre les enfants à l'école demain, on va encore faire une petite sortie ou une après-midi jeu pour profiter. Peut-être qu'après avoir déposé vos enfants demain à l'école, vous avez dit, ah, je vais souffler un peu. Parce que là, les 15 jours ont été chargés. Vous avez peut-être déjà en tête l'agenda de votre prochain week-end, de vos prochains temps de camping, le chalet déjà réservé, votre prochain week-end, les dates de mariage de la famille sont réservées, les anniversaires sont prévus, vous avez prévu peut-être un voyage, le camp Flambeau, cet été. Il y a plein de choses qu'on projette, qu'on anticipe, qu'on prépare en début d'année, avec des durées, des échéanciers, 2 semaines de vacances pour nos 20 ans de mariage. C'est ce que je me suis dit l'année dernière. Je sais pas, on verra. Peut-être tu veux te lancer dans les affaires, tu veux créer ta propre boîte, tu veux prendre un travail. Tu prévois peut-être d'ici 2 ans, aller d'acheter une maison. Tu prévois peut-être de changer de travail parce que tu vois que ça va plus. Tu veux peut-être ralentir le rythme. Ou voilà, il y a peut-être la retraite. On prévoit des actions, des activités. Dans la tête, il y a des choses claires. On va travailler, c'est sûr. Certains d'entre nous vont accoucher. Tu vas aller faire des visites, tu vas aller visiter, tu vas faire des voyages, tu vas te reposer, tu vas économiser. On anticipe des résultats. On imagine déjà nos enfants qui vont passer une étape, c'est la rentrée dans une école privée peut-être. Ils vont passer aux études supérieures, ils vont passer au collège, j'en sais rien. Il y a plein de choses qu'on essaie d'anticiper. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est vrai, au verset 4, c'est très humain de planifier, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Est-ce que tu sais c'est quoi le problème avec nos prévisions du début d'année? Ben, ce texte nous dit, verset 14, que nous sommes ignorants, fragiles, éphémères et mortels. Des bons moments, hein. Faut se rappeler en ce début d'année que nous sommes ignorants, fragiles, éphémères, mortels. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On va garder pour tout à l'heure la parole d'encouragement. On se dit, bon, je commence comme ça. Et c'est important, mes amis, que notre cœur comprenne cela. Alors qu'on ouvre cette nouvelle année, la Bible nous dit, vous ne savez pas de ce que sera votre vie demain. Vous êtes ignorants. Nous ne savons même pas si tout à l'heure, nous serons là, dans une heure. La Bible nous dit, vous êtes une vapeur. Une vapeur, hein, c'est ça, hein. Vous êtes ça, une vapeur, éphémère. Aussi vite qu'elle apparaît, elle disparaît. On est éphémère, on est mortel. On ne contrôle rien. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu ne contrôles pas ta vie en 2025. Sur chacun d'entre nous, alors qu'un début d'année plein de vie, la parole nous dit qu'il y a une date de péremption. Comme dans le frigo, vous savez, sur les yaourts, il y a une date d'expiration. Il y a une date. Dieu a fixé une date pour ta mort. Éphémère. On est au début d'année, hein. J'aimerais quand même nous encourager. Reste avec moi. Mais avant l'encouragement, on a besoin de passer par là. On est éphémère. Pour chacun d'entre nous. Regardez ce que Ecclésias dit, hein. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et en ce début d'année, on veut se rappeler que plusieurs l'ont dit pour 2024. 2024 a été une année de grâce. Ne prenons pas pour acquis cette prochaine année 2025. Nos jours sont comptés. Dieu a fixé une date d'échéance, a donné une date à notre naissance et à notre mort. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit aussi, et par exemple dans Psaume 90, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours. » J'étais hier au vœu de notre mère, il parlait de notre avenir, et il disait « L'avenir de nos vies, l'avenir de nos villes, il est dans nos mains, dans une intelligence collective. » La parole de Dieu nous dit, vous n'avez rien entre vos mains. Vous n'avez rien entre vos mains. Voilà l'encouragement. Alors qu'en ce début d'année, on a des projets, on veut entreprendre peut-être plein de choses, la parole nous dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La parole nous rappelle que je ne contrôle rien. Je ne contrôle pas ma vie en 2025. Mais voici l'encouragement. Toi, tu ne contrôles rien. Moi, je ne contrôle rien, mais Jésus contrôle ta vie en 2025. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors qu'on planifie, alors qu'on projette, la parole de Dieu nous dit, tu devrais dire si le Seigneur le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Le problème n'est pas de planifier, le problème... La parole de Dieu nous encourage à planifier. Le problème n'est pas de planifier, mais le problème est de planifier sans le Seigneur. La Bible dit en Psaume 55, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Et il agira. Il agira. Tu peux agir comme tu veux dans la prochaine année, mais si Dieu n'agit pas, c'est en vain que tu te gigotes dans tous les sens. Tu peux bâtir intensément dans cette nouvelle année, mais si l'Éternel n'est pas là, tu travailles en vain. Je partageais dans la réunion de vie d'église du mois de décembre avec ce passage d'Agé, ça m'avait interpellé. réfléchissez activement à votre conduite. C'est Agé qui lance les paroles de « Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. » Donc là, c'était le constat qu'ils avaient plein de choses, mais ils étaient insatisfaits. Il y avait un vide. Et plus loin, Agé va dire, parce que l'Éternel, ben en fait, vous aviez des mauvaises priorités. C'est l'Éternel qui donne la satisfaction de ces choses-là. Parce que votre priorité était autre. Parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Proverbe encore, confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. La parole de Dieu ne dit pas que c'est mal de planifier, mais c'est mal de planifier sans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'alors que nous connaissons Dieu qui est omniscient, il sait tout. C'est celui qui sait tout. Moi, je ne sais pas si je passerai l'année, mais je connais le Dieu qui sait le nombre exact de mes jours. Je suis ignorant, mais mon Dieu est omniscient. Ça, c'est la bonne nouvelle pour ce début d'année. L'année 2025 nous est inconnue, mais en tant que chrétien, on devrait être heureux de nous confier notre avenir à un Dieu qui sait et qui connaît. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2025. Parfois, quand on écoute les infos, on se dit... Mais je connais le Seigneur. Enfin, est-ce qu'on le connaît, le Seigneur, qui est au contrôle de cette année 2025? Moi, je suis fragile. Mon Dieu est omniscient. Je suis dans la main de Jésus. Et c'est mon encouragement pour nous en 2025. Alors que je suis éphémère, que nous allons tous disparaître, que nous allons tous passer, nous connaissons le Dieu qui est souverain. Ce Dieu qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel ». Et sur la terre. Et c'est ce Dieu-là qui dit, je serai avec vous tous les jours. Jésus connaît. Jésus contrôle notre vie en 2025. Et c'est ce qu'on veut, s'encourager à se confier dans ce Dieu-là. Pourquoi? Je cite par exemple un Pierre, hein, l'herbe sèche, la fleur se fane, hein, c'est ça, c'est nous. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Nous, on est éphémères, mais Dieu qui dit « Je contrôle, je suis là », demeure éternellement. Il n'y a pas d'endroit plus sûr au monde, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu désire. La parole de Dieu nous dit, alors que nous planifions, alors que nous nous projetons, alors que nous fixons des dates, qu'on fixe des échéanciers, qu'on a des projets, qu'on a des rêves, la parole de Dieu nous encourage à dire « Si Dieu le veut ». On devrait rajouter la volonté de Dieu dans nos projets, si le Seigneur le veut. Pas comme Dieu voulant comme une formule magique. C'est pas ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Dieu voulant, si Dieu le veut, c'est sous une dépendance de se dire Dieu est au contrôle. C'est une foi christocentrique. On sait que Christ est au contrôle. C'est pour ça que Paul, et on le voit par exemple dans Corinthiens, je prévois d'aller vous voir si Dieu le veut. Je prévois d'aller vous encourager si Dieu le veut. Il place Dieu au cœur de ses projets. Alors j'aimerais nous encourager, alors que peut-être on va faire des résolutions, je sais pas, des projets, des réglages dans notre vie, des envies. J'aimerais nous inviter à nous arrêter et mettre vraiment le Seigneur dans nos projets. Mettre Jésus au centre, de reconnaître sa volonté pour tous les aspects de notre vie. Et enfin, la parole de Dieu nous dit, je reprends le verset 15, hein, « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » On vit, si Dieu le veut, et on fera ceci ou cela. La Bible nous dit que ce qu'est ma vie, ce que j'accomplis est dans les mains du Seigneur. C'est ce qu'on veut croire et c'est ce qu'on croit. Enfin, j'imagine. Il contrôle la vie. Il contrôle tout ce qu'on est capable de faire. Le succès de nos projets en 2025, ou peut-être les belles choses qu'on va vivre, ne dépendent pas de notre main, mais de sa main. Une illustration. Grand chef cuisinier. réputé pour ses talents exceptionnels, qui décide un jour de réaliser une recette complexe qu'il maîtrise à perfection. Pour cela, il prend une patule simple, comme j'en ai une, en bois, achetée dans un magasin de quartier pour une somme toute modique, et avec maîtrise, il réussit son plat, magnifique, savoureux, parfaitement exécuté. De l'autre, vous avez l'amateur de cuisine que je suis, convaincu qu'il me faut le meilleur outil pour réussir. Je me procure une spatule de luxe, de grande marque française, au prix exorbitant. Je me lance à mon tour dans la recette, dans la même recette, armée d'une ma spatule flambant neuve. Malgré l'apparence impeccable de ma spatule, les ingrédients de qualité, bio, la même recette, mon plat est une catastrophe. Mal assaisonné, mal cuit, visiblement pas appétissant. Pourquoi ? Le succès de la recette n'est pas dans l'instrument, mais dans celui qui tient l'instrument. Le succès ou la réussite ou les belles choses de nos vies 2025 ne sont pas dans nos vies, dans nos mains, pardon, ou dans nos vies, mais sont dans le Dieu qui tient nos vies. L'endroit le plus sûr au monde, c'est la volonté de Dieu. Alors si tu lis ce verset et que tu vis dans la peur, dans la crainte, alors tu ne connais peut-être pas ce Dieu qui maîtrise tout, qui est souverain, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Quels sont tes projets en 2025 ? La Bible nous rappelle que nous ne contrôlons rien du tout, mais que Jésus contrôle ta vie en 2025. Et elle nous met en garde aussi, et c'est le prochain verset, dans le projet de rejeter cette volonté de Dieu en ce début d'année. J'ai le danger de l'arrogance. Verset 16. Mais maintenant vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. C'est important de comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que c'est la présomption ? C'est de considérer comme certain ce qui est probable. Il y a plein de choses dans cette nouvelle année qui sont probables, qui vont arriver. Des vacances, des projets, oui. La santé, probablement, peut-être. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver, qu'on peut anticiper. Mais on oublie de s'arrêter et de réaliser qu'en fait, qu'on dépend de Dieu. La présomption consiste à ne pas tenir compte de la volonté de Dieu. De vivre comme si Dieu, comme si sa volonté pour nous n'existait pas. Ça, c'est un premier aspect, mais c'est aussi l'aspect de comprendre, oui, il y a Dieu, il y a une volonté, mais on la rejette. On doute que ce soit pour nous. On croit en nous-mêmes. On sait de ce qu'on sait, on sait ce qu'on maîtrise. Notre outil, là. On place notre confiance dans les personnes, dans les projets, dans les visions, dans nos objectifs, dans notre propre volonté. Mais mettant de côté la volonté de Dieu, on se vante de notre réussite. Et c'est vrai que quelquefois, quand je regarde à ma prochaine année, il est possible de prendre la vie de Dieu comme acquise. Voilà, comme si, voilà, ça allait être comme ça. J'aime beaucoup ce qu'Esdras a dit lorsque, voilà, ils ont reconstruit la muraille notamment. Notre succès dépend du fait que la main du Seigneur était sur nous. Il reconnaît que la main du Seigneur était sur eux. Le péché de présomption, c'est l'orgueil de se confier dans un calendrier. On se dit, nombre de fois où je me dis cela, nouvelle année, hop, nos compteurs sont à zéro. Plein d'espoir, parce que depuis quelques heures, on a changé de calendrier. Mon ami, le calendrier 2025 ne fait rien, ne peut rien pour toi. C'est le Dieu d'éternité qui peut faire quelque chose pour toi. Le fait qu'on a une nouvelle année, peut-être avec une nouvelle page vierge devant nous, ne change rien. Pourquoi ? Je vais vous dire une grande vérité. Vous le savez, l'année a changé, mais nous sommes les mêmes personnes, avec les mêmes défauts, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes péchés, avec les mêmes choses qui déshonorent Dieu. Parole de Dieu nous dit, Proverbes 3:5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur » et ne t'appuie pas sur ton intelligence. 2025, parfois, on veut s'appuyer sur son intelligence. Ce début d'année, la parole de Dieu nous rappelle de nous confier en Dieu de tout notre cœur. Et lorsqu'on omet de considérer la main de Dieu dans nos vies, c'est ce qu'on vit dans ce verset-là, les glorioles. Ici, ce qui est dénoncé, c'est le manque d'humilité face à la souveraineté de Dieu. Le manque d'humilité face à la souveraineté de Dieu. Vous savez, les orgueilleux n'aiment pas la souveraineté de Dieu parce qu'ils considèrent que Dieu est trop intrusif. Un chrétien né de nouveau, centré sur Christ, connaît cette souveraineté. Mes amis, le Dieu de la Bible n'est pas un génie que tu remets dans ta bouteille après tes trois vœux. Oui, il est intrusif, il connaît toutes choses, il soutient toutes choses, il crée toutes choses. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu peut mettre à terre nos projets, les mieux ficelés qui soient. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu n'est pas un génie dans une bouteille. On ne peut pas le contenir. L'univers ne peut pas le contenir. Il ne peut pas être trop intrusif. Il ne peut pas avoir trop de contrôle sur ta vie. Le péché qui est dénoncé ici au verset 16, c'est le manque de reconnaissance de notre totale dépendance envers Dieu. C'est lui qui nous donne le souffle et la vie. La Bible nous avertit, en ce début d'année, n'oublions pas de nous arrêter pour reconnaître notre totale dépendance envers notre Dieu. Petite illustration. Avec les livraisons, on reçoit tous des colis devant notre porte. Vous imaginez un gros colis qui arrive à la maison. Colis pour votre femme. Votre petite fille, toute excitée, veut le saisir, mais le colis, il est trop lourd. Sa maman est au deuxième. Il est plus lourd que ce qu'elle peut porter. Alors, elle le prend, elle le saisit, mais papa, il faut le ramener. Mais il est trop lourd pour toi. Elle leur dit, mais papa, je le porte et toi, tu me portes. L'enfant est tellement concentré sur ce colis, sur son geste, qu'elle oublie qu'elle ne peut rien faire sans son père qui est plus fort. Souvent, on se focalise sur le colis, on pourrait dire sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on va tenir, sur ce qu'on va projeter. Et on oublie le Dieu qui nous tient, ou le Dieu qui nous tient le colis. C'est notre Père qui nous porte. Et je termine, verset 17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Il y a un contexte qu'on vient de voir dans ce verset. Permettez-moi de récapituler. Ce début d'année, la parole de Dieu nous dit « Quels sont tes projets pour 2025 ?» Considérant tous ces projets, rappelle-toi que tu ne contrôles pas 2025. Tu ne contrôles pas ta vie, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais Jésus contrôle ta vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et 4, la parole de Dieu nous met en garde de ce péché de l'orgueil, de présumer des choses qui ne dépendent pas de la souveraineté de Dieu, de ne pas réaliser notre totale dépendance envers Dieu. On présume que Dieu est peut-être accessoire. Verset 17, la parole de Dieu nous encourage à mettre Jésus au centre de nos vies en 2025. Je relis. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Souvent, lorsqu'on pense au péché, on pense aux choses qu'on fait, des paroles qu'on prononce, des actions qu'on fait, l'orgueil de notre cœur, les mauvaises pensées. Mais le péché, c'est plus que cela. Si quelqu'un sait faire le bien, c'est le péché d'omission. Le péché, c'est non seulement le fait de commettre le mal, mais c'est aussi le fait d'omettre, de mettre Jésus au centre de nos vies. On connaît la volonté de Dieu, on connaît la volonté de Dieu pour nous, c'est lui au contrôle, mais on choisit de le tenir à l'écart. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez, il y a des chrétiens en 2025 qui sont hyper actifs spirituellement. Je déclare que cette année, c'est ce que j'ai commencé tout à l'heure, on déclare une année de bénédiction. Faire, faire, faire. Et notre année sera notre année. Alléluia. Et la parole de Dieu nous met en garde contre cela, si Dieu le veut. Mais elle dit aussi que l'autre extrême n'est pas mieux. La parole de Dieu n'encourage pas l'hyperactif spirituel, mais de l'autre côté n'encourage pas le fatalisme passif. Un chrétien qui se confie, qui dépend de la souveraineté de Dieu n'est pas là à attendre. Il n'est pas là à rien faire, non. C'est pas ça que Jacques est en train de nous dire. Si Jésus est souverain, mon job, c'est de le mettre au centre de ma vie. Tu dois le faire, mais Jésus, il est le créature, je suis le créateur. Il est le créateur, pardon, je suis une créature et je suis appelé à lui obéir. Il est le sauveur, il est le Seigneur. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs, nous sommes appelés à lui obéir. Si quelqu'un ne fait pas ça, si quelqu'un ne réalise pas que le succès de sa vie, c'est Dieu voulant, si quelqu'un ne réalise pas que la grâce de Dieu sur sa vie, il commet un péché. Le mot péché, c'est rater la cible. On le dit régulièrement. Chacun d'entre nous, on aimerait ne pas rater la cible en 2025. Mon ami, si tu ne mets pas Jésus au centre de ta vie, tu rates ta cible. Cette année, 2025, peut-être je le souhaite, tu peux avoir une promotion au travail, qu'on reconnaisse enfin ta plus-value. Cette année, tu peux acheter une maison, tu peux voyager, tu peux changer ta voiture pour une voiture électrique, tu peux courir 3 super marathons, tu peux être admiratif de la réussite de tes enfants, tu peux participer à plein de concerts en tant que premier soliste. Si Jésus n'est pas au centre de ta vie est un échec. Tu rates la cible. C'est ça que ça veut dire. Tu rates la cible. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Et ton épanouissement ne se trouve qu'en Jésus-Christ, dans une relation féconde avec lui. Ta vie est en Jésus. Ce que tu accomplis en Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du tir à l'arc ou du tir. Mon frère, il s'est mis à la carabine. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois du tir à l'arc, souvent en été. Imagine un tireur qui veut atteindre une cible placée à une distance considérable. Première fois, là. On a un arc, un super arc. On revient avec le super matériel, hein, une belle flèche tout droite. Et on a l'intention de viser précisément sur un point, mais sans un point de focus clair, avec une cible floue et imprécise. Je tire ma flèche et à chaque fois, celle-ci sera dans la mauvaise direction. J'aurai le mauvais geste. Loin de la cible. Mais imagine que maintenant l'instructeur te met un petit gadget là sur ton arc ou sur ton pistolet, un petit truc électronique qui pointe, un petit rayon laser là comme les enfants ils ont des fois, tac, tu le mets bien, et là tu vois clairement où tu vas tirer. Tu vas pas pouvoir la louper. Tu vas atteindre la cible avec beaucoup plus de facilité parce que tu vois ce petit point rouge. C'est plus facile d'atteindre la cible si tu as ce point focus qui est clair, quand tu as quelque chose de concret. Et pour 2025, si nous voulons une vie qui réussit, une vie qui sait se focaliser sur Jésus-Christ. Tu suis Jésus-Christ, tu aimes Jésus-Christ, tu honores Jésus-Christ, tu glorifies Jésus. Alors ton année sera une année de succès. Alors peut-être pas le succès comme le monde le présente, pas selon les standards de ce monde, mais selon les standards de la parole de Dieu. La parole nous dit « Mets Jésus au centre de ta vie ». Conformons alors notre conduite à notre profession de foi. Je dis, ouais, je suis chrétien, je suis disciple du Seigneur. Alors montre que tu mets Jésus, Christ, dans ta vie. Donc la question que je me pose, que je te pose en terminant, c'est comment en 2025 tu vas faire pour avoir plus de Jésus dans ta vie? Comment tu vas plus dépendre de lui? Qu'est-ce que tu peux faire pour plus dépendre de Dieu en 2025? Comment tu peux faire pour mieux te confier dans la souveraineté de Dieu en 2025? Comment vas-tu te prendre pour mettre plus de Jésus dans ta vie? Comment tu vas t'y prendre pour être plus conscient de la grâce de Dieu au quotidien? Comment tu vas faire pour mieux appliquer la bonne nouvelle de Jésus dans tes combats, dans tes péchés, dans tes défis? On pourrait avoir plusieurs réponses, hein, plusieurs manières. On pourrait se dire plus de paroles de Dieu. C'est un bon moyen. De mettre plus d'église dans ta vie. L'église, ça t'aide à être plus centré sur Jésus. C'est un bon moyen. De plus prier. La prière, vous savez, c'est une déclaration de notre dépendance, de notre soumission envers Dieu. Je veux te remettre. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors qu'on regarde à notre année qui s'ouvre, il y a des gens peut-être ici qui sont dans cette salle, je vous encourage à vous approcher de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu te demande peut-être de revenir à Jésus, de le recentrer. Tu t'es détourné de lui, tu l'as mis de côté. Que l'année 2025 soit peut-être une année de retour, d'une consécration nouvelle. Peut-être que 2025, c'est une année où tu veux, avec l'aide des autres, avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'aide de son esprit, te détourner d'un péché que tu sais que la parole de Dieu condamne. Parce que tu ne fais pas le bien que tu devrais faire. Un des problèmes que Jacques dénonce, hein, au verset 13, c'est plein de projets, mais Jésus n'est pas dans le projet. Plein de projets matériels, mais il n'y a rien de spirituel. Plein d'éléments pratiques, mais il n'y a rien de biblique. Donc, dans la grâce que je te souhaite pour cette année, que je nous souhaite en 2025, c'est que l'on puisse nous encourager à mettre plus de Jésus dans nos vies, plus de Dieu dans nos vies, afin que notre année soit fondée sur lui, bâtie pour Jésus. Alors, dans cette nouvelle année 2025, ce que je te souhaite, c'est de plus honorer la parole de Dieu. Ce que je te souhaite, c'est d'être centré sur Jésus et de pouvoir chanter « Quel bonheur de marcher avec lui !» Ce que je te souhaite, c'est de répondre positivement à la volonté de Dieu et d'avoir les marques d'une vie transformée par lui. Ce que je te souhaite, c'est de reconnaître sa grâce, de reconnaître qu'il nous donne tout en abondance. Ce que je te souhaite, c'est de laisser sa divine présence imprégner ton quotidien. Ce que je te souhaite, c'est d'avoir une foi vivante. Ce que je te souhaite, c'est de marcher, c'est de plus marcher par l'Esprit. Ce que je te souhaite, c'est d'accueillir ces dons qu'il te confie. Ce que je te souhaite, c'est de plus aimer les autres et d'avoir l'audace, la joie de parler de cette bonne nouvelle. Ce que je te souhaite, c'est de briller dans les ténèbres. Ce que je te souhaite, c'est de glorifier Dieu.